Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'accepte mon sort. J'accepte le sort que j'ai été. Je
crois que vous avez laissé entendre que c'était du capitalisme. C'est du capitalisme américain, un peu du capitalisme américain, n'est-ce pas? Et donc il y a aussi ce sentiment que je ne blâme personne. C'est une défaillance infrastructurelle des pays industrialisés, et de plus en plus de pays industrialisés du monde anglo-américain veulent imiter le capitalisme américain. La santé est toujours une question d'équilibre. Nos corps le font tout le temps. Nous sommes constamment ramenés à l'équilibre. Chaque aspect de notre physiologie est ramené à l'équilibre par nos propres systèmes individuels internes de soins. Au niveau planétaire, les choses sont ramenées à l'équilibre. Les marées ramènent la mer à l'équilibre. Elles créent les zones interstitielles entre la mer et la terre où nos ancêtres sont sortis de l'océan pour devenir nous. Sans ce domaine de soins, cet équilibre, ce sens de l'attention à l'équilibre, nous ne serions pas là. Il est maintenu à ce jour par la Lune, comme cela arrive. Et la Lune, en un sens, porte une attention constante à cet équilibre. Maintenant, vous pourriez dire que ce n'est pas du soin, que vous dévalorisez le soin en le déshumanisant. Ce n'est pas mon cas. Je soutiens que le soin a un principe dynamique spécifique qui est lié à la santé, qu'il doit prêter attention à la question de l'équilibre et qu'il doit être la force réparatrice qui nous ramène à l'équilibre. Une attention constante aux besoins physiologiques lorsque nous sommes nourrissons, puis le retrait prudent de cette attention sans la supprimer complètement lorsque nous grandissons afin que nous puissions maintenir notre santé psychologique. Quel est le lien avec le capitalisme, et quel est le lien avec le point soulevé par David selon lequel nous avons dépensé de plus en plus pour les soins de santé, ce qui n'est pas nécessairement du soin. Ce n'est pas nécessairement la même chose dans le capitalisme et le capitalisme peut donc s'adapter. Je dirais qu'en fait, le capitalisme a atteint le point de non-retour dans ce modèle, car nous nous dirigeons très rapidement vers un point où nous ne pouvons plus nous permettre les factures de soins de santé que nous avons accumulées à travers le capitalisme. Et l'une des raisons à cela est que la force motrice prédominante du capitalisme ne réside pas dans le souci. C'est dans la négligence. Ce n'est pas une attention à la santé. C'est en fait une manière de profiter de notre propre mauvaise santé. Et nous le constatons spécifiquement dans l'augmentation constante des maladies chroniques qui sont liées avant tout à notre mode de vie, à notre alimentation. Et lorsque nous examinons ce facteur en particulier, ce n'est pas le seul. Le stress est un autre facteur. Les toxines environnementales sont un facteur de notre santé, mais l'alimentation est un facteur important dans l'épidémie de maladies chroniques qui tue désormais plus de 3 personnes dans le monde, qui meurent et perdent leur qualité de vie à cause de maladies chroniques. Cela est en partie lié au profit pur et simple d'une grande industrie alimentaire qui a été autorisée à se développer. Le profit de notre propre neuropsychologie, de notre propre dépendance aux aliments qui nous rendent malades et, en fait, la légitimation de cette activité par la poursuite de la croissance économique au nom du capitalisme. Voilà un modèle qui a créé ce que j'appellerais une fausse économie. Des profits pour une minorité, des problèmes de santé pour la majorité. Et quelle est notre réponse à cela? Notre réponse est une industrie pharmaceutique qui est également axée sur le profit et qui profite de la vente de remèdes contre les symptômes qui ne traitent plus les causes sous-jacentes de la maladie et qui introduisent encore plus de toxines dans notre corps. Et ces deux choses sont légitimées par la poursuite de la croissance au sein d'un capitalisme qui est lui-même accro à la croissance. C'est dans ce sens que je pense que nous devons examiner les structures sous-jacentes et nous demander comment revenir à des soins véritablement réparateurs.
D'accord. Vous avez certainement raison. C'est quelque chose que je connais et sur lequel j'écris, en ce qui concerne l'industrie alimentaire et certaines pratiques, vous savez, la façon dont les aliments sont transformés et fabriqués industriellement. Il est également vrai comme PIC, en tant que remède miracle venant des grandes sociétés pharmaceutiques, ne fonctionnera pas car il y a toujours des choses qui se retrouveront dans les aliments que nous mangeons, même à une concentration moindre, qui auront des effets néfastes en termes de maladies inflammatoires, de côlon irritable, etc. Cependant, il y a une question politique ici, à savoir si vous avez foi en un retour à l'homéostasie, en laissant nos systèmes internes et nos mécanismes environnementaux externes retrouver un certain équilibre et une certaine régulation. Mais n'y a-t-il pas aussi une sorte de discours politique en ce moment pour rendre les gens individuellement et personnellement responsables? Vous savez, la médecine préventive consiste à mieux manger, à faire attention à ce que vous mettez dans votre organisme, c'est votre responsabilité. Et je me demande si ce n'est pas vraiment juste quand, vous savez, on regarde les environnements alimentaires dans lesquels les gens vivent et on pense qu'il est parfois tout simplement impossible de trouver des aliments abordables, reconnaissables et délicieux qui ne soient pas remplis d'ingrédients ultra transformés. Donc, j'ai peur que le capitalisme fasse porter la responsabilité à l'individu. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce qui arrive. Vous savez, nous, les gens qui font honte au gros, nous disons que le changement de mode de vie relève de la responsabilité individuelle. Je veux dire, laissez-moi juste vous raconter une petite histoire personnelle ici, parce que pendant le processus d'écriture de l'économie des soins, on m'a diagnostiqué une maladie chronique, le diabète. Elle est liée au sucre et aux glucides raffinés et à un régime alimentaire qui est surchargé de sucre et de glucides raffinés. L'hyperglycémie touche désormais environ une personne sur trois dans la population. Deux personnes sur trois de mon âge et est responsable de maladies inflammatoires et de nombreuses maladies chroniques qui submergent le système de santé. Donc, vous savez, être confronté à cela, et c'était une sorte de moment de honte pour moi si vous voulez. Je me considère comme un homme en bonne santé et en forme qui prenait soin de lui et qui réalisait qu'on m'avait diagnostiqué quelque chose qui affecte en fait un nombre croissant de personnes et qui fait partie d'un problème social. Mon instinct, mon premier instinct face à cette honte, en un sens, était de partir et d'essayer de régler le problème, ce que j'ai fait de mon mieux. Mais la première leçon que j'ai apprise, c'est que c'est presque impossible, n'est-ce pas, à cause du système dans lequel nous vivons. Et donc, vous savez, il y a un sens dans lequel nous recherchons constamment la médecine et notre mode de santé recherche des agents pathogènes. Ils recherchent la pathogenèse. Quelle est la racine de notre maladie? La racine de la maladie est-elle mon comportement personnel? C'est un facteur causal de la maladie dont je souffre. J'ai mangé trop de sucre. J'ai été élevé dans un environnement où le sucre était abondant. J'ai été conçu dans un environnement où le sucre était extrêmement rare et je vivais dans un monde où les gens pouvaient tirer profit de ces deux différences en créant un régime alimentaire qui, au final, allait affecter tout le monde. Je ne suis qu'un point sur le radar de cette pandémie chronique. Je n'y suis pour rien. Et la leçon, ma leçon, non seulement de me retrouver dans cette situation, mais aussi de constater à quel point il est extrêmement difficile de changer, c'est qu'on ne peut jamais espérer améliorer la santé de la population en plaçant la responsabilité personnelle sur les épaules de l'individu alors que le système est délibérément conçu pour le maintenir malade. David, qu'en pensez-vous? D'accord, je ne me retrouve généralement pas dans une position où je défends le capitalisme. Je me considère comme un social-démocrate. Je suis parfaitement conscient de nombreux échecs du capitalisme, mais je ne suis convaincu ni par Tim ni par Catherine à ce sujet. Je veux dire, sur le fait de blâmer le capitalisme pour le fait qu'il ne soit pas plus facile de combiner une carrière professionnelle réussie et la taille de famille que l'on souhaite. Eh bien, si vous aviez vécu dans un autre pays, un autre pays capitaliste qui vous aurait offert près de 2 ans de congé maternité payé à 100% et qui vous aurait offert des services de garde d'enfants plus ou moins gratuits, vous auriez pu faire ces choses. Et il existe de nombreux pays capitalistes dans le monde qui offrent cela. On les appelle les pays scandinaves. Puis-je vous dire que mon mari a un frère et une sœur, l'un vit en Norvège et l'autre en Allemagne, et ils ont eu 3 enfants, et nous en avons eu un. Je ne blâme pas le capitalisme. Je dis qu'il n'y a pas de capitalisme infra-américain et que le manque d'infrastructures de soins est ce qui ne me fait pas dire que je suis responsable. J'accepte mon sort. J'accepte le sort que j'ai eu. Je
pense que vous avez laissé entendre que c'était capitaliste. C'est du capitalisme américain, un peu du capitalisme américain, n'est-ce pas? Et donc il y a aussi ce sentiment que je ne blâme personne. C'est une défaillance infrastructurelle des pays industrialisés, et de plus en plus de pays industrialisés du monde anglo-américain veulent imiter le capitalisme américain. Donc ce que vous décrivez, ce que Tim a décrit, peut-être que vous ne le faites pas, mais peut-être que vous ne le pensez pas, mais je le pense. Quoi qu'il en soit, ce que Tim vous décrivait, c'était aussi ce genre d'infrastructure alimentaire. Nous appelons cela les modes alimentaires. Vous ne pouvez pas, vous pouvez faire marche arrière, vous pouvez essayer de choisir des choses, mais les modes alimentaires sont structurés de manière à vous rendre accro au sucre, par exemple. Donc au
sucre, au sel et aux graisses en fait.
Ouais. Donc, nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos de l'individu.
Non, je ne le fais pas, je ne le fais pas. Mais je pense que vous devez également reconnaître que cela est en grande partie lié aux libertés que nous avons choisies, aux conséquences de nos décisions, à nos choix libres d'avoir des familles beaucoup plus petites, de ne pas prendre soin de nos personnes âgées, de les placer dans des maisons de retraite. Nous faisons ces choix tous les jours parce que nous voulons nous concentrer sur notre propre épanouissement personnel la plupart du temps. Et je pense que vous savez qu'il est facile de faire porter le chapeau à une force extérieure abstraite. Nous nous dirigeons vers une situation où le ratio de dépendance, quand j'étais jeune, était d'environ 5 travailleurs pour un retraité. Nous sommes maintenant à 3 pour 1. Cela va aller en s'aggravant. Nous ne serons pas en mesure de maintenir un état-providence dans les 20 ou 30 prochaines années. Nous faisons peser davantage de coûts parce que nous ne nous occupons pas de nos propres enfants ou de nos personnes âgées. Nous faisons donc peser davantage de coûts sur l'État et il y a moins de contribuables pour payer ce que l'État doit faire. Nous allons donc devoir changer. Nous allons devoir réfléchir davantage à la vie de famille et à la reconstruction de la famille à l'ère moderne avec nos libertés modernes.
Catherine, je vais vous donner un dernier mot sur le sujet général. Donc je pense qu'il y a une tendance antisociale au sein du capitalisme tardif qui nous rend de plus en plus isolés les uns des autres. Et cette idée que la domesticité restaurera un manque de sociabilité est une façon d'y penser. La manière traditionnelle plus conservatrice de revenir aux traditions, de revenir aux soins affectifs. Je ne suis pas une gauchiste anti-famille. Je pense que c'est l'un de ces refuges contre un monde cruel qui devrait être soutenu mais qui devrait bénéficier d'un soutien infrastructurel. Ce qui s'est passé aux États-Unis, et c'est une société de classe, c'est que le taux de divorce chez les femmes ayant fait des études supérieures a considérablement diminué. Le taux de divorce chez les femmes de la classe ouvrière a considérablement augmenté. Les chances de naître hors mariage, dans un monde ouvrier, sont bien plus élevées que si vous étiez né dans une famille où les deux parents ont fait des études supérieures. C'est donc presque comme si, et je vais rejeter la faute sur le capitalisme, c'est la société de classe, nous avons arrogé la famille comme un article de luxe pour les classes professionnelles et avons laissé les classes ouvrières en dehors de tout abri qu'elles pourraient avoir sur le marché. Donc.
Super, merci. Tim, je sais que vous allez avoir beaucoup de réflexions et de réponses. Ouais. Eh bien, je veux dire, merci, Catherine, parce que vous avez soulevé l'un des points, vous savez, notre tâche est de comprendre pourquoi le soin est dévalorisé, pas comme David l'a fait, vous savez, en parlant très clairement de toutes les façons dont il est dévalorisé. Je veux dire, personne n'est vraiment en désaccord avec ça. Donc, en ce sens, comme Catherine, je suis plutôt d'accord avec ce que vous voulez dire, mais je voulais vous rattraper. Je veux dire, je voulais vous rattraper sur deux ou trois points que j'aimerais aborder. L'un est, qu'est-ce que le soin en soi ? Et l'autre est, quel est le problème du capitalisme avec le soin ? Et je pense qu'il y a un problème. Vous savez, je pense que pour réfléchir à ce qu'est le soin, nous devons continuer à regarder cette vidéo, cliquer sur le lien en haut à gauche ou dans la description ci-dessous.
Avec un essai gratuit, vous pouvez profiter de la conférence complète et de milliers d'autres.
Merci de participer à la conversation.